Je vais passer maintenant la parole à Tetiana Ogakorva. Tetiana, est-ce que vous êtes là? Bonjour, vous êtes en direct de Kiev grâce à Internet. Tetiana, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous avez récemment fait une communication à l'UNESCO sur les enfants en Ukraine et vous avez également accepté de témoigner du désir d'Europe des Ukrainiens, reprenant le fil de la pensée de l'intervention que vous aviez faite avec votre mari Volodymyr Yermolenko lors de la première rencontre en janvier et qui m'avait particulièrement frappée. Et donc je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Bonjour. Chers messieurs, chères mesdames, c'est un honneur pour moi que d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir parler des enfants dans la guerre et de notre désir d'Europe ici en Ukraine. Ayant pour sujet cette question des enfants ukrainiens face à la guerre que la Russie mène contre nous depuis déjà 10 ans, je devrais tout d'abord vous parler des chiffres, du nombre d'enfants tués, blessés, déplacés, kidnappés. Je devrais évoquer les statistiques des foyers qui sont brisés, des femmes veuves séparées de leurs enfants. Je devrais mentionner les conditions de vie, c'est-à-dire le nombre de civils ukrainiens privés d'eau, de chauffage, d'électricité, mais aussi de soins médicaux, de l'enseignement, des activités scolaires et extrascolaires, de tout, bref, ce qui constitue en fait une vie normale. En tant que journaliste, je suis journaliste, je maîtrise bien sûr certains de ces chiffres. Mais je suis aussi et avant tout citoyenne, mère des 3 enfants moi-même et volontaire. Et c'est dans cette capacité-là, en tant que volontaire, que je me déplace d'une manière très régulière vers les zones de combat, les zones particulièrement exposées au risque de combat. Je vais donc d'abord évoquer quelques histoires, quelques noms en fait, dont j'ai une expérience personnelle. Un garçon. Il s'appelait Ivan. Il avait 6 ans. Il habitait à Sinelnikova, région de Dnipro. Le 19 avril 2024, la veille du vote historique au Congrès américain qui concernait l'aide de 61 milliards destinée à l'Ukraine, Ivan dormait paisiblement dans son lit, comme on dort à 5 heures du matin et quand on a 6 ans. Le missile russe avait frappé Sinelnikova, il avait détruit sa maison. Il n'avait aucune chance. Son frère de 8 ans, sa sœur de 14 ans, sa mère et sa grand-mère ont été tués dans cette frappe. Et quand je lis cette actualité, je regarde ma petite Yaroslava, notre petite dernière. Elle va bientôt avoir ses 6 ans. Elle aussi, elle a 2 aînés, sa sœur de 7 ans, Yarina, et sa sœur Darina de 15 ans. Cette frappe aurait pu détruire notre famille, comme elle avait détruit la famille d'Ivan. Mais les médias étrangers nous ont appelés le lendemain de cette frappe pour savoir, pour prendre notre réaction au vote américain. Notre réponse était très simple. Nous, les vivants, on est très heureux. Mais la famille d'Ivan ne pourra jamais répondre à cette question. La famille d'Ivan aurait pu survivre si les systèmes patriotes ou autres qu'on demandait depuis des mois protégeaient déjà nos villes. Une autre histoire, une autre famille qui est elle aussi 3 enfants. Ils s'appelaient Dmytro, Oleksiy et Arina, 2 frères, 15 ans et 10 ans, et une petite sœur, 3 ans et demi. Ils habitaient à Izium, région de Kharkiv, est de l'Ukraine. Ils étaient dans un immeuble de 5 étages avec leurs grands-parents et avec leurs parents. Le 9 mars 2022, l'avion russe avait largué une bombe de 500 kg sur cet immeuble. C'est grâce à Arina, cette petite fille de 3 ans et demi, que nous avons pris connaissance de cette histoire. Parce que c'est elle qui a dit, quelques secondes avant cette frappe, à son grand-père, Mikhailo, « Papy, fais-moi du thé, s'il te plaît. » Et donc, Mikhailo a fait quelques pas pour remonter à l'étage et pour lui faire le thé. C'est à cause de ce mouvement qu'il est survécu. Arina, avec ses frères, avec ses parents, avec sa grand-mère, ont été écrasés avec 50 autres personnes au sous-sol de cet immeuble. Nous nous sommes rendus à Izium et nous avons rencontré et longuement parlé avec Mikhailo, le grand-père de cette famille, le seul survivant. Lui, il a perdu 7 membres de sa famille lors de cette frappe. Mikhailo a dû attendre plus d'un mois en fait, dans les zones occupées avant de retrouver les corps de sa famille. Nous nous sommes allés avec lui au cimetière où il a enterré avec ses propres mains et dans les cercueils qu'il a fabriqués lui-même avec les planches de bois et de tapis, tous les corps de sa famille. 2 ans plus tard, Mikhailo, on le voit régulièrement quand on se rend à Izium, il se considère heureux. Il a pu retrouver les corps. Les autres, ses voisins, sont partis dans les sacs en plastique dans ce cimetière improvisé à Izium. Mais il y a encore pire. Sa voisine n'a toujours pas retrouvé le corps de sa maman. Sur place, tout le temps pendant les recherches du corps, elle s'accrochait littéralement à un bout de corps qu'elle croyait être celui de sa mère. Mais l'analyse ADN l'a démenti. Donc cette voisine, elle n'a plus de mère, elle n'a pas de corps, elle n'a pas de tombe de sa mère. Et la dernière famille, toujours de 3 enfants. Ils étaient 3 frères dans une famille qui habitait à Kharkiv, Kharkiv que nous visitons très régulièrement. Oleksiy, 7 ans, Mikhailo, 4 ans, et Pavlo, 10 mois. Le 9 février 2024, c'est-à-dire il y a 3 mois, les Russes ont bombardé Kharkiv avec les drones iraniens du type Shahed. Ils ont notamment ciblé volontairement un dépôt de pétrolier. Le carburant s'est répandu dans la rue, provoquant l'incendie des maisons. Au moins 15 immeubles résidentiels ont été incendiés. Dans la maison de la famille de Oleksiy, Mikhailo et Pavlo, les restes de 5 corps ont été retrouvés. Presque impossible à identifier. Ces 3 enfants, ces 3 frères, avec leurs parents, étaient brûlés vifs et leurs os se sont littéralement transformés en cendres. Le plus petit était le plus difficile à trouver. En fait, il s'accrochait à sa mère. Il est mort dans ses bras. Et derrière ces visages, Ivan, Dmitro, Oleksiy, Arina, Pavlo, il y a 545 enfants ukrainiens tués depuis le 24 février 2022. 1304 blessés. Ce sont uniquement les chiffres que nous connaissons parce qu'ils concernent les territoires qui sont actuellement contrôlés par l'Ukraine. On ignore le nombre exact d'enfants tués dans les territoires occupés. À Mariupol seul, une ville assiégée et martyrisée au printemps 2022, 130 000 corps ont été signalés par des locaux dans les morgues, c'est-à-dire un chiffre absolument monstrueux. Mais les enfants ukrainiens ne sont pas uniquement tués et blessés, ils sont aussi kidnappés et déportés. La Russie occupe actuellement des territoires où, avant leur invasion, il y avait à peu près 1 million de mineurs, c'est-à-dire 1 million d'enfants de moins de 18 ans. Les médias russes mentionnent ouvertement le chiffre monstrueux de 744 000 enfants ukrainiens déplacés, c'est-à-dire déplacés, déportés depuis le territoire, depuis leur maison, depuis leur région. C'est une pratique génocidaire qui avait déjà fait la Cour pénale internationale à émettre les mandats d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et le commissaire aux droits de l'enfant en Russie, Marie Lvova-Belova. L'Ukraine a déjà vérifié plus de 19 500 dossiers d'enfants déportés et seulement 388 d'entre eux ont pu rentrer chez eux en Ukraine. Et ceci grâce aux efforts de l'État ukrainien et aux efforts inlassables de différentes associations. Après le retour en Ukraine, ces enfants témoignent. Ils témoignent de la séparation forcée de leurs parents. Ils témoignent de l'intimidation, de l'éducation patriotique, entre guillemets, russe, de la militarisation et parfois des tortures. Certains enfants revenus des territoires occupés ne parlent plus, même à l'âge adolescent. Ils se renferment dans une espèce de mutisme encore plus effrayant que leur témoignage. Vous pouvez regarder et lire les reportages du journaliste français Olivier Truc, qui écrit pour Le Monde, qui avait suivi justement un adolescent de la région de Zaporijia, qui a décrit son histoire. C'est un adolescent qui ne parle plus, littéralement, et se renferme dans son silence. Il y a aussi la migration à l'étranger. Selon les chiffres de notre ministère de l'Intérieur, au moins 4 millions d'Ukrainiens sont partis à l'étranger, ce qui représente 10% de la population de l'Ukraine. Parmi ces 4 millions, comme vous pouvez deviner, il y a surtout, avant tout, les femmes et les enfants. Et certains enfants, pendant la première année de cette grande guerre, ils essayaient de suivre le programme scolaire ukrainien, en même temps avec le programme scolaire de leur pays d'accueil, bien sûr. Mais durant la deuxième et surtout la troisième année qui vient de commencer de cette grande invasion, ils le font de moins en moins. Chaque année de plus de cette guerre les fait oublier leur langue, leur pays, éloigne la possibilité de retour. Entre les enfants volés par la Russie, c'est-à-dire déportés vers la Russie et se poussés à partir à cause de l'agression russe, il y a aussi les enfants qui ne sont pas nés. Le taux de natalité en Ukraine a diminué d'un tiers par rapport au niveau d'avant-guerre. Ce sont des chiffres officiels. Le déplacement, les combats, la situation économique, la séparation familiale, souvent le père dans les tranchées, la mère à l'étranger, qui voudra emmener un enfant dans ce monde qui s'écroule. Et puis, il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont nés mais qui grandissent sans père. Ma collègue journaliste, Anastasia Bagalica, a dit tout récemment qu'il déteste le messager Signal. Vous connaissez sans doute le messager Signal. Mais son mari, le père de son bébé qui a 3 mois à peine, c'est par messager Signal qu'il voit des photos et des vidéos de ce bébé grandir. Ça va faire des mois, peut-être des années, qu'elle va rester éloignée dans les tranchées avant de pouvoir voir son enfant grandir. Sans enfant, il est très clair, il n'y a pas d'avenir. On nous a dit que Dmytro, cet adolescent de 15 ans qui était mort, qui était tué par cette bombe russe à Izium, qu'il était un élève exemplaire. Il s'intéressait au téléphone, à l'informatique. Il y en a un enfant de des enfants. Des élèves exemplaires et des moins exemplaires, il y en a aussi. Avant l'invasion russe, les statistiques nous disent qu'il y avait 4 millions d'élèves en Ukraine repartis dans 13 000 écoles. Aujourd'hui, plus de 3 000 écoles sont endommagées par les bombardements, dont 300, en fait plus de 300, sont complètement détruites. Aujourd'hui, un tiers de toutes les écoles ne fonctionnent pas correctement pour des raisons de sécurité. Les enfants ont une éducation en ligne dans plusieurs régions, notamment tout d'abord dans la région de Kharkiv, dans la région de Zaporizhia, dans la région de Sud, Kherson, bien sûr, Donetsk, Lugansk. Il n'y a pas d'école. Il y a uniquement l'enseignement en ligne. Les alertes aériennes qui sonnent tous les jours perturbent la vie scolaire dans toutes les villes et dans tous les villages de l'Ukraine, de l'Est à l'Ouest, au Nord et au Sud, sans exception. Aujourd'hui, les enfants de Kharkiv, qui est une ville à 40 km de la frontière russe, ils ont bien sûr une éducation en ligne. Une collègue à moi, journaliste, Anne Nagin, a raconté tout récemment une scène de quotidien. Elle a raconté, elle a décrit cette scène de quotidien. Un groupe d'adolescents collés à leur téléphone portable se regroupent dans l'endroit qu'on appelle ici en Ukraine le point de l'invincibilité. En fait, ce sont les endroits où on peut avoir de l'électricité et aussi de l'Internet, même pendant les coupures d'électricité qui sont, comme vous le savez sans doute, très fréquentes à Kharkiv actuellement. Et donc les enfants collés à leur téléphone portable répondent à des questions de leur prof de chimie en essayant de crier plus fort que les générateurs, parce que c'est grâce à des générateurs qu'ils ont l'électricité et qu'ils puissent répondre à des questions de leur prof de chimie. Il n'y a pas un seul enfant en Ukraine qui a échappé à cette expérience de cours annulée à cause des alertes. Mes filles à moi, durant l'hiver 2022-2023, continuent à faire leurs cours de musique et leurs cours de danse, souvent dans le noir. C'est parce qu'il y avait des coupures d'électricité. Les profs apportaient des lampes de poche, ils continuaient, ils jouaient du piano, ils dansaient littéralement dans le noir. Ainsi, le droit à l'éducation est cruellement violé par la guerre. Nos enfants se retrouvent en chair et en os à l'intérieur d'une leçon de l'histoire qu'ils sont en train d'apprendre en survivant à l'horreur de la guerre. Et cette leçon, elle est amère. Cette leçon porte sur le fait que l'histoire, elle n'est pas linéaire et qu'on peut voir au XXIe siècle une guerre aussi cruelle et aussi insensée. Cette leçon porte aussi sur l'incapacité, en tout cas pour l'instant, du monde démocratique d'arrêter et de punir le pays agresseur qui viole le droit international, que menace tout le monde avec l'arme nucléaire, qui prolifère des mensonges et qui continue à tuer tous les jours. Il y a quelques semaines, il y avait une télévision canadienne qui m'a contactée. En fait, c'était une chaîne télévisée pour enfants. Ils ont récolté des questions des petits Canadiens âgés de 8 ans à 12 ans. Ils m'ont posé ces questions-là. Il y avait une des questions qui était extraordinaire dans sa simplicité. La question était comme ça. Pourquoi la Russie, qui est le plus grand pays au monde en termes de superficie et de ressources, pourquoi elle attaque un pays voisin pour conquérir encore des territoires? Nos enfants ne connaissent pas la réponse à la question du petit Canadien. Mais nous, les adultes, on la connaît. La Russie le fait parce qu'il le peut, c'est-à-dire parce qu'on lui permet de le faire. Détruire pour avancer, semer la mort, semer la destruction, exporter la violence à l'extérieur pour mieux consolider l'opinion publique à l'intérieur. Qu'est-ce que propose la Russie dans son agression? La violence, l'élargissement de la violence, où le crime devient même pas un moyen d'atteindre un objectif, mais l'objectif lui-même. Suis-je une bête tremblante ou ai-je le droit, comme disait un personnage de l'écrivain que vous connaissez sans doute, un écrivain russe classique. Au village Komichovar, hein, les régions de Kharkiv, un village qui était détruit par les troupes russes et qui était occupé par les troupes russes au printemps et l'été 2022, nous avons vu un graffiti d'un soldat russe anonyme qui m'a fait penser à cette citation de Dostoïevski. Ce graffiti, il nous disait, bah, c'était écrit, ce n'est pas un crime de guerre si toi tu t'es bien amusé. Voilà, la relativité de la morale. Somme toute, ce n'est pas la guerre contre nos territoires, c'est la guerre contre nos principes. Et quand vous voyez l'Ukraine s'accrocher à l'idée de l'Europe, rêver d'entraide à l'Union européenne, ce n'est pas par souci économique et politique. En tout cas, ce n'est pas un souci primordial. C'est pour des raisons sécuritaires, puisque l'Europe, c'est un espace où on cherche à réduire la violence. On cherche à respecter l'être humain et puis réduire cette violence. La Russie, c'est un espace où on cherche à normaliser la violence. Et la Russie continue à y arriver. La Russie a déjà transformé 20% du territoire ukrainien, les territoires qu'il a occupés, en ruine. Elle détruit, elle avance en détruisant. Il ne s'agit pas d'un pays qui serait une puissance globale. Il s'agit d'un pays qui est un PIB comparable à celui d'un pays européen de taille moyenne, tel Italie ou Portugal. Ce n'est pas seulement par ses ressources inépuisables que la Russie est capable de continuer son agression. C'est aussi grâce à la complaisance des uns et l'indifférence des autres, trop nombreux, qu'elle tient encore debout. Mais revenons au sujet des écoles. Sans école, les familles partent. Elles abandonnent leur ville et leur village. Les régions entières se vident. Et nous, on le constate à chaque voyage, à chaque déplacement vers les territoires qui sont à côté de la ligne du front. Et c'est exactement ce que recherche la Russie dans son agression contre l'Ukraine. C'est le dépeuplement des territoires. C'est exactement ce qu'elle cherchait en Syrie d'ailleurs. Elle va y arriver si nous n'agissons pas. C'est pour protéger les enfants que l'Ukraine demande toujours des armements, toujours des munitions, pour libérer des territoires, pour protéger des villes. Vu de l'Ukraine, c'est un combat pour la vie contre la Russie meurtrière et nécrophile qui sème la mort partout. C'est une guerre de défense, c'est une guerre de libération, c'est une guerre légitime, c'est une guerre juste. C'est une guerre où, si on arrête de se battre, il y aura tout simplement plus de vie. Pas seulement plus d'Ukraine, mais plus de vie. Autrement, si on cesse de se battre, la population civile restera l'otage de l'occupant et toutes les régions frontalières sont dépeuplées. Et un jour, si on n'agit pas, l'Ukraine, ce grand pays au cœur de l'Europe, pourrait devenir un désert humain. Sans enfants, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de sens non plus au sacrifice qui est déjà fait par le peuple ukrainien au nom de l'Ukraine, mais tout aussi bien et sans doute avant tout au nom du principe de notre monde, de la non-violence, du respect de l'être humain et des droits de l'homme et des lois internationales, bien sûr. Arthur Drogne, jeune poète de Lviv, il avait 13 ans à l'époque où la Russie avait commencé sa guerre contre l'Ukraine en 2014. En 2022, Elle est partie sur le front tout juste après avoir terminé ses études universitaires. Aujourd'hui, il fait face à l'abîme de la guerre qui dévore notre pays, les hommes, les femmes, les enfants, tout le peuple. Dans un de ses poèmes, il s'adresse au pape Jean-Paul II, qui avait visité Lviv en 2001, à l'époque justement où Arthur Drogne venait de naître. Il avait quelques mois seulement à cette époque-là. Cette réunion de pape Jean-Paul II, il était accompagné des pluies, et donc le pape, avant de faire son discours, il a chanté une chanson sur la pluie. Il a chanté « La pluie tombe, les enfants grandissent ». C'est une très belle chanson, mais elle date du monde d'avant. Arthur Drogne, qui a aujourd'hui 23 ans, évoque dans son poème cette phrase de Jean-Paul II. Il continue, et là, je cite. Saint Jean-Paul II, j'ai grandi sous cette pluie. Mais maintenant, nous vivons un tel hiver et tout demande un tel prix que seule la neige et des soldats tombent. Les soldats tombent, les enfants grandissent. Les soldats tombent, les enfants grandissent. Nos soldats tombent, mais nos enfants grandissent dans la guerre. Ils grandissent grâce à notre amour et à notre sacrifice, grâce à notre volonté de les défendre. Nos enfants grandissent grâce à notre conviction que la génération future doit vivre dans un monde européen, libre, heureux et pacifique. On croit légitime et nécessaire de voir tous les gens de bonne volonté de nous soutenir dans ce combat. Merci de votre attention.